Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team, un FC Stream Team un peu spécial aujourd'hui que c'est un FC Stream Team de retour de vacances, Martin, retour de vacances pour nous deux. Ben, on n'a pas d'intro.
On n'a pas d'intro, mais on est bien bronzé. Et je préfère être bronzé et pas avoir d'intro, Maxime, personnellement. Maxime qui s'est payé son petit séjour de Nabab, on va dire, de nouveau riche. Kenya, et que je vais te voir les et que je vais te shooter les lions et que je vais te shooter les girafes. Il y a des très jolis tapis dans son salon maintenant.
Attention, shooter des photos.
Ah pardon, ah, mais j'avais mal compris. Je pensais que tu avais fait ta déco, moi.
Un safari photo. Écoute, j'ai beaucoup aimé le Kenya. Alors pour le c'était un voyage CE. Hein, c'est pas pas faire croire aux gens qu'on part comme ça.
T'as le droit d'avoir
dans
l'argent.
Des lointaines contrées.
T'as le droit d'avoir l'argent, Maxime.
C'est toi, tu t'es quand même barré du.
Ouais, mais moi je suis allé dans un pays, voilà, je suis allé au Maroc marcher pour essayer un petit peu de faire le point sur cette émission, faire le point sur toi, faire le point sur notre relation, faire le point sur ma vie. Et c'est pas sûr que ça dure encore très longtemps, ce Stream Team.
Moi, j'ai vu de belles choses. Alors, j'étais étonné, non, j'étais pas étonné d'une chose, mais évidemment, moi j'aime bien dans les pays de rencontrer le peuple,
le bas peuple.
Et j'ai appris qu'ils étaient très fans de Manchester United et de Manchester City, ce qui ne m'étonne pas beaucoup. Puisque, bon, évidemment, c'est la première ligue là-bas et comme partout qui fait foi. J'ai même rencontré un supporter de l'Olympique de Marseille.
Tiens donc.
C'était avant le Marseille.
Au Kenya.
Ouais, au Kenya, exactement.
Il s'était perdu ou.
Non, écoute, parce qu'il nous a demandé à un moment où vous venez d'où en France. On lui a dit à côté de Paris. Il a commencé par dire Marseille. Alors j'ai demandé pourquoi Marseille.
T'as réagi comment à ce moment-là?
Bah, j'étais étonné.
Ouais, t'étais étonné, ouais.
Et puis voilà, donc Olympique de Marseille, donc même 30 ans après la victoire en Ligue des Champions, le club garde c'est-à-dire des liens, une certaine quelque chose en Afrique, donc c'était plutôt pas mal. Et puis j'ai un peu appris le Swahili.
Ah bah vas-y.
Alors qu'est-ce que tu veux
Hakuna Matata ?
Bah pas de problème.
Ouais, voilà.
Simba.
Ouais, le lion.
Simba Lala.
Ah ça je sais pas.
La lionne.
Ah, d'accord.
Twiga.
Je sais pas.
C'est la girafe.
Ok.
Ngele.
Ngele, je sais pas.
C'est
un petit truc le facochère. Voilà, le facochère.
Et puis après, les autres, je me souviens plus, mais bon, c'était intéressant.
C'est intéressant, en tout cas, de claquer 6000 boules pour savoir dire girafe en Swahili.
C'est hyper intéressant. Non, c'était beaucoup moins cher. Mais c'est j'étais jamais allé au Kenya, c'est un très beau pays.
Okay. Est-ce que cette émission est sponsorisée par l'Office de tourisme du Kenya?
Alors, je préférerais faire peut-être à côté. Pour voir d'autres pays, on peut faire Tanzanie peut-être.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Ça serait bien un petit sponsor qui nous offre des voyages. Ah, alors si, ouais. Le seul point noir de l'émission, oui. C'est que pour ceux qui ont suivi la dernière émission avant les vacances, on avait
le point noir, c'est qu'il y avait Cyril et Glenn déjà.
Alors ça, c'était la dernière
c'est
émission.
Gros point noir, ça.
Mais celle d'avant, il y avait des stagiaires troisième.
C'est vrai.
Dont ma fille, donc ma fille évidemment était obligée de venir avec moi. Mais je me suis retrouvé dans le voyage avec un autre stagiaire troisième que j'ai
assisté à l'émission.
Qui a assisté à l'émission, que j'ai surnommé Valoche.
Ouais.
Et avec qui t'avais des petites frictions?
Il m'avait énervé lors de la dernière émission. D'ailleurs, je suis bien content qu'il ne soit pas là. Et j'ai réclamé à la direction d'Eurosport qu'ils ne mettent plus les pieds dans cette belle institution qu'est Eurosport. Voilà.
Martin, il est impitoyable.
Ah, je suis impitoyable. Moi,
t'es avec lui ou contre lui
hein. Voilà, exactement. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est tout blanc ou noir. Ça ne peut pas être gris chez moi. Est-ce qu'on parle football ou pas, Maxime? Je sais pas. Ou on peut parler girafe? Comment on
girafe,
dit en soi,
alors, je peux parler.
Hippopotame.
Hippopotame, j'en ai vu, mais dans l'eau, pas trop. Mais j'étais très impressionné. J'ai beaucoup aimé les éléphants.
D'accord.
C'est vraiment impressionnant comme animal.
Ok. Là, les gens, je pense qu'ils vont décrocher un moment.
Les girafes aussi, parce que c'est très grand.
Ah bah
c'est
oui,
un très grand coup.
Ah, c'est impressionnant.
Et tout ça m'a donné envie de revoir.
L'expertise, là. Le roi lion.
Le roi lion.
Ouais,
parce que c'est vraiment, en fait, c'est le roi lion.
Oui. Ouais,
c'est la savane, c'est le roi lion, voilà, tout simplement. Et j'ai dit.
Oh là, il enfile les clichetons là.
Et c'est une métaphore de la vie.
C'est une métaphore de la vie.
Tous ces animaux qui vivent ensemble. J'ai l'impression que c'est une métaphore de la vie. Voilà. Ouais, chacun a son petit précaré, tout ça. C'est...
Si ce n'est que nous, on ne se bouffe pas entre nous.
Oui,
pas
alors j'ai vu en revanche deux lionnes qui bouffaient un gnou. Et ça, c'est impressionnant parce que tu verras la taille des paluches et des dents. J'aurais pas voulu être en dessous, tu vois.
Bon, après, Maxime qui va donc se... Vous l'aurez compris, la semaine prochaine, vous ne retrouvez plus Maxime parce qu'il part dans le documentaire animalier. Voilà, ouais. se recycler.
Et rien à voir.
Il s'arrête pas. Hein, et il va pas.
Et j'ai appris, tu te rappelles du chocolat merveille du monde?
Je vais dire oui, mais.
Ça peut être, c'est ce chocolat, tu sais, que tu ouvrais, dedans il y avait une image.
Ouais. Ouais.
Bah, il avait disparu, bah, il va revenir.
c'est vrai. Et t'as pris ça au Kenya?
Ouais, parce que je lisais un bouquin et c'était dans. Enfin, bouquin, une revue, voilà.
Bon! Ah, il a rien à dire aujourd'hui. Alors j'espère que ça va être un tout petit peu plus passionnant concernant le foot.
Ouais,
parce que
j'ai fait 5 minutes d'intro là.
Ouais, bah, tout seul là. Là tu... comment on dit girafe en swahili déjà, Maxime? Nous sommes plus.
Girafe Twiga.
Twiga, voilà. Donc comment vous aurez appris quelque
et,
chose.
Et Jumbo Jumbo, salut.
Ah oui, ouais. Ouais, ça voilà. Je savais. Voilà, donc au moins vous aurez appris ça si toutefois l'émission était d'un piètre niveau. Ce dont je doute de moins en moins vu l'état dans lequel est Maxime en ce début. De FC Stream Team. Trois sujets aujourd'hui pour parler football. Trois sujets qu'on va décortiquer comme d'habitude. Alors que Maxime, il ne s'en remet pas, il est encore dans son 4-4 là. On va démarrer l'émission en parlant de Messi et de Ramos. On sait que Messi, la prolongation, ça devient de moins en moins évident. Alors que Ramos, lui, veut absolument prolonger selon le confrère d'équipe. Et on se posera la question, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces deux-là?
Un petit sujet qu'on a rajouté en urgence parce que c'est tombé il y a quelques minutes, c'est le forfait de Neymar pour le Bayern. Est-ce une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain?
Donc ça fera 4 sujets du coup. Ouais, ça 3 fera 4 sujets. Sujets.
3 sujets et demi.
Ah, lui, on ira vite. Ensuite, on parlera de Vitinha, l'attaquant, la recrue la plus onéreuse de l'histoire de l'Olympique de Marseille. À quoi il sert, tout simplement? Il est là depuis un mois, il ne joue pas. Et quand il joue, bah, c'est pas ça. Et on terminera, Maxime, avec The Best.
The Best, la cérémonie dont tout le monde se fout, mais qui nous a fait
sauf Karim Benzema.
Réagir. Sauf Karim Benzema. Et on va rebondir un peu sur ce qu'on a vu de ses, j'allais dire ses visuels, non, mais son Instagram. On a l'impression qu'il a mal vécu d'être troisième. On va se poser la question suivante. Est-ce que Benzema méritait mieux au regard de, des mois passés? On rappelle que c'est Lionel Messi qui a remporté le titre.
Un petit mot swahili, Maxime, peut-être, avant de démarrer l'émission?
Tu veux quoi?
Je sais pas. Au revoir. Tu nous as dit bonjour, peut-être au revoir.
Et je me rappelle pas ça.
Tu sais pas.
C'est toujours triste, ces au revoir, donc je voulais pas...
J'ai l'impression que ce voyage, il t'a changé, Maxime.
Ah, écoute, ouais, c'était. C'est une belle expérience.
Ouais, humaine avant tout.
Humaine avant tout. Ouais, ouais. Parce que moi, je compte beaucoup avec les rencontres, l'autre.
Ouais. Et puis, c'est ceux qui parfois n'ont rien, qui ont, finalement ont tout. Hein, Maxime?
C'est ça.
Voilà. Allez, on démarre avec Messi et Ramos. Faut-il les prolonger? L'équipe nous apprend aujourd'hui que Ramos souhaite prolonger son aventure du côté de la Ville Lumière, alors que les négociations avec Messi. On rappelle que les deux joueurs sont en fin de contrat au mois de juin, que Messi, il y a une option qui existe si les deux parties sont d'accord, ce qui n'est pas pour le moment le cas. Lionel Messi, 35 ans, Sergio Ramos, 37 ans. Maxime, tu es directeur sportif du PSG, est-ce que tu les gardes?
Je ne garde pas Sergio Ramos déjà. Je ne garde pas Sergio Ramos pour une raison simple, il a 37 ans. Et j'estime que, alors évidemment, si vous n'avez pas la mémoire courte, vous vous rappelez que ça fait quasiment deux saisons qu'il est là. La première saison a été compliquée, qu'il y a eu des problèmes physiques et que généralement, ce n'est pas des choses qui s'arrangent avec l'âge. Voilà.
Je garde même pas... si cette saison te prouve un peu le contraire, parce qu'il joue au moins.
Ouais, oui, il joue au moins. Voilà. Mais quand j'achète, je n'ai pas Sergio Ramos pour il joue au moins. Je veux qu'il apporte plus. Alors, on va me parler peut-être du leadership, en effet. Mais s'il y a un problème de leadership avec une éventuelle absence ou un départ de Ramos, c'est qu'il y a un gros, gros problème avec les autres joueurs du Paris Saint-Germain, qui notamment en défense s'appellent Marquinhos, qui pendant longtemps était censé être le leader qu'on imaginait, et évidemment le pauvre Presnel Kimpembe qui s'est gravement blessé au tendon d'Achille. Donc là, c'est pas une raison suffisante pour moi pour le garder. Il faut rappeler que normalement, Skriniar arrive l'été prochain, donc l'un pour l'autre, ça me choque pas, ça fait du 109, même si évidemment les garanties sur Skriniar, je peux pas être complètement sûr non plus. Et surtout, il y a un autre sujet qui va arriver sur la table, c'est évidemment Kimpembe. Parce que Kimpembe, lui aussi, il est un tournant. Le problème de Kimpembe, c'est qu'il ne jouera pas avant, a priori, l'automne prochain.
Octobre.
Voilà. Donc, en gros, c'est quand même deux pièces en l'air. Mais si je devais choisir, je pense que je viserais plus quand même Kimpembe parce qu'il est beaucoup plus jeune. Alors, évidemment, il y a cette blessure-là, mais on se remet aussi de blessure. Mais en tout cas, moi, Ramos, je pense que je ne le prolongerai pas.
Moi, je prolongerai ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas parce que Paris, j'allais dire, est dans une bonne série, ou en tout cas a relevé la tête face à Marseille, qu'on va contredire ce qu'on a dit juste avant. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire cette équipe. Et avec Messi, Ramos, leur statut et leur salaire, c'est impossible. C'est de là, c'est environ 50 millions d'euros de masse salariale par an. Donc, c'est gigantesque. Donc, déjà, ça te handicape au niveau de ta masse salariale, mais aussi au niveau du statut. C'est-à-dire, quand tu as Messi et Ramos, s'ils sont en forme, eh ben, ils sont sur le terrain. Ce ne sont pas des joueurs que tu mets sur le banc. Donc, pour reconstruire, c'est impossible. Alors, Ramos, t'en as très bien parlé, même si j'apporterai quand même une toute petite précision. C'est qu'en ce début d'année, dans les matchs importants, il est là. Marseille et le Bayern Munich. Donc, ça éclaire peut-être d'un nouveau jour. En tout cas, son expérience au Paris Saint-Germain. Mais pour moi, il n'a pas été assez fondamental jusqu'ici pour que Paris le prolonge. Pour Messi, c'est différent. C'est-à-dire que je pense qu'il peut apporter beaucoup plus que Ramos l'année prochaine. Il est plus jeune. Il a montré ce qu'il a montré pendant la Coupe du Monde. Mais, on l'a dit suffisamment ici, cette équipe du Paris Saint-Germain a besoin de se repenser, reconstruire, d'acheter des chiens, j'allais dire, autour de Kylian Mbappé. Et finalement, le contrat de Neymar piège un peu le Paris Saint-Germain parce que Neymar, il est en contrat jusqu'en 2027. Ce sera très dur de trouver un nouveau point de chute. Et à partir du moment où Neymar reste, il faut en enlever un des trois. Ce sera donc difficilement Neymar, ce ne sera pas Mbappé. Donc, je ferai le choix aussi de me séparer de Messi, d'acheter une vraie pointe, un pivot, peut-être un peu plus costaud qu'Ekitike, de prendre des joueurs qui font des replis défensifs, de reconstruire cette équipe avec une masse salariale, avec des statuts un peu moins affirmés. Et c'est pour ça que moi, je me séparerai des deux.
Ouais, alors pour Messi, moi, alors, sur le papier, je me poserai évidemment la question. En fait, moi, Messi, je l'englobe dans un problème plus large, c'est-à-dire le problème des trois. C'est-à-dire qu'il y en a un trop. C'est évidemment pas Mbappé.
Ouais.
C'est très possiblement Neymar. Voilà.
Oui, mais tu peux pas t'en séparer.
Ouais, mais j'essaierai quand même. Voilà. Je pense que si je devais choisir entre Neymar et Messi, je garderais Messi parce que il y en a un qui est pas fiable physiquement, qui est pas toujours fiable sur le terrain, qui est parfois toxique. Donc, ça pose problème. Et puis, de toute façon, le 7+3, on en reparlera sûrement
bien
sûr sujet après. C'est un gros problème. En fait, c'est ça qui est difficile avec Messi, c'est-à-dire que si je le prolonge, je veux être sûr que je ne garde pas les trois, parce que comme derrière, tu es prisonnier de ce trio-là. Galtier dira ce qu'il veut, il est quand même prisonnier de les faire jouer quoi qu'il arrive. Et tu ne vas, à mon avis, pas très loin, entre guillemets, du moins en Ligue des Champions, avec les trois, parce que tu as la fameuse équipe coupée en deux. Voilà, donc, mais comme tu as dit, ils sont prisonniers du contrat jusqu'en 2027, il me semble. Donc, la décision, ça va être peut-être une décision par défaut qui ne sera pas forcément la bonne, c'est-à-dire de dire, bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut donner du 109, il faut en larguer un. Et si on largue, c'est forcément Messi. Mais Mbappé, Neymar, ça fait 6 ans. Je sais pas que j'ai plus un doute, c'est que je suis certain que ça n'ira nulle part. Donc là, c'est une situation un peu particulière pour Messi.
Et avec Messi, je conserve quand même cette idée qu'aujourd'hui, il a atteint son Graal, il a atteint ce qu'il voulait atteindre. Il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner. Son retour de Coupe du Monde est quand même moyen, même si c'est un peu mieux ces derniers jours, mais il est quand même moyen. Je ne suis pas sûr que Paris aura un retour à la hauteur de son investissement sur Messi. C'est 41 millions d'euros par an.
Ça, c'est sûr que...
41 millions d'euros par an. Donc moi, voilà, je pars du principe que maintenant, Paris... on a compris, je pense que... on verra ce qui se passe face au Bayern Munich, mais à un moment, il faut qu'ils comprennent qu'il vaut mieux acheter des joueurs pour gagner des matchs que pour vendre des maillots. Je ne dis pas que Messi ne fait pas gagner des matchs, mais la structure même de cet effectif parisien ne permet pas, ce que tu disais Maxime, d'aller loin en Ligue des Champions. Donc je pense qu'il faut tout repenser, que donc il faut se séparer d'un énorme salaire, qu'il faut se séparer de joueurs au statut intouchable. Et qu'en ce sens, et Skriniar, il a 10 ans de moins que Ramos aussi.
Donc,
s'il faut en choisir un des deux, à un moment. Parce que si tu as Skriniar, Marquinhos et Ramos, tu mets qui sur le banc dans les grands matchs? Voilà, ce ne sera pas Ramos, a priori, si tu le conserves. Donc, voilà, moi, je me séparerai des deux.
Et tu as aussi le fait que, sur le logiquement, ce qui doit s'appeler le fair play financier à venir. Tu es censé avoir une masse salariale qui baisse d'année en année, je crois, pour arriver au maximum 75%, je crois, dans 3 ans. À un moment, à force de garder les gars, tu es censé faire un effort chaque année. Alors évidemment, le fair play financier et l'UEFA, est-ce qu'elle est, bon, ça n'a pas l'air de faire
très peur au Paris Saint-Germain. Mais bon, à un moment, je pense aussi qu'il faut arrêter, surtout cette politique dispendieuse qui ne porte pas ses fruits. Enfin, à un moment, c'est aussi ça. C'est que si ça marchait encore, on pourrait dire, OK, ça marche, il dépense, ça marche. Et jusqu'ici, le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions et est à 90 minutes d'élimination virtuelle. Donc, je pense qu'en effet, il faut changer de fusil d'épaule parce que derrière tout ça, il y a quand même le cas Mbappé. Mbappé, il ne va peut-être pas être éternel au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on a vu des joueurs changer d'avis à un moment, dire « bon, c'est bon, j'en ai marre, ça ne marche pas, je ne suis pas parti la dernière fois, donc je vais partir cette fois-là ». Donc à un moment, c'est vraiment construire autour de lui et peut-être que ça passe par d'autres joueurs. Moi, je suis persuadé que ça passe par d'autres joueurs et des profils peut-être moins brillants sur le papier, mais qui seront plus amenés à faire progresser l'équipe.
En tout cas, face au Bayern Munich, Neymar ne sera pas là. Christophe Galtier l'a officialisé ce vendredi en conférence de presse. Ils étaient tous les trois là hein, lors du match aller. Enfin, Mbappé est rentré en cours de jeu. La question qu'on peut se poser, Maxime, c'est ce forfait de Neymar, dans quelle mesure c'est un handicap pour le PSG ? Et déjà, est-ce que c'est un vrai caillou dans la chaussure parisienne ?
Moi, je pense pas. Déjà, je vais rappeler un truc très simple. C'est depuis 2016, 100% des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions n'avaient ni Neymar, ni Mbappé, ni Messi dans leur effectif. Donc, c'est possible sans. C'est possible sans, voilà. Et c'est même presque parfois mieux sans, hormis Mbappé, évidemment. Non, je pense tout simplement non. Parce que, de toute façon, le game changer, on l'a vu à la fin du match aller, c'est Mbappé. Le game changer du PSG, c'est Mbappé. On l'a revu aussi contre l'OM. La profondeur, le danger qu'il porte, les problèmes qu'il pose à l'adversaire, il n'y en a pas d'autres comme lui. Et évidemment, un joueur comme Neymar, on va dire, bah oui, mais c'est ce que dit d'ailleurs tout, souvent Galtier, il dit oui, mais le coup d'éclat, le talent, bah oui, évidemment, il y a des passes, la passe qu'il fait contre Lille sur le premier but, ouais. Là, bon, Mbappé fait tout le job derrière, mais.
Oui, mais Mbappé, il fait peut-être pas cet appel s'il n'y a pas Neymar.
Voilà, la passe est lumineuse. Moi, je pense que, alors évidemment, avec un axe différent parce qu'il est gaucher, mais je pense que Messi peut aussi envoyer 2-3 belles ogives. C'est sûr que. Sur des instants, on perd des choses incroyables. Mais est-ce que sur la durée d'un match, sur la durée d'une saison, sur la durée d'un mois, ce que vous voulez, le PSG n'est pas plus pénalisé par la présence d'un Neymar que le contraire. Moi, je pense encore une fois que c'est mieux ainsi. C'est-à-dire que ça va être une équipe qui sera peut-être plus cohérente, qui ne sera pas coupée en deux, je le répète, parce que le 7+3, ça ne marchera jamais. Donc au pire, là, ce sera un 8+2. Et ce sera un peu plus cohérent. Donc moi, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, évidemment, ça aurait été que Mbappé ne soit pas là.
Moi, je ne suis pas vraiment sur ta ligne là. Parce que je pense aussi, et bon, Mbappé, il a été très bon contre le Paris Saint-Germain sans Neymar. Hein. Mais je pense quand même, Mbappé, il est meilleur quand il est entouré de Neymar et Messi. Et moi, je reste quand même convaincu que Neymar, dans ces matchs-là, notamment quand il faut marquer parce que là il va falloir marquer, alors oui il faudra pas en prendre, donc effectivement peut-être que le fait de densifier un peu l'axe du milieu, ou même le milieu tout court, ça peut te permettre d'être un peu plus étanche derrière, mais malgré tout j'ai quand même des souvenirs de Neymar en Ligue des Champions. Oui, mais qui sont pas si lointains. Hein. Enfin, qui datent pas non plus d'il y a 4 ans.
De 3 alors.
Non mais il ne faut pas non plus tout jeter. Il fait aussi un début de saison exceptionnel. Contre Lille, il est très bon. Et c'était il y a, c'était il y a quoi ? 10 jours ? Voilà. Donc,
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis.
Comme toujours.
Non, parce que je veux dire, il rend Mbappé peut-être meilleur.
Oui.
Mais je ne suis pas sûr qu'il rende le PSG meilleur.
Et la finalité. Fatalement.
Contre Lille, je rappelle qu'ils sont menés 3-2 à 5 minutes de la fin.
Oui. Il sort blessé aussi, hein, donc on lui met pas tout sur le dos non plus.
C'est-à-dire, je pense que, alors oui, rendre Mbappé meilleur, c'est une chose, c'est peut-être paradoxal, mais la finalité, c'est que le PSG soit meilleur. Et je pense encore une fois que ce n'est pas le cas. Et je répète ce que je disais.
Alors sur la longueur, je sais pas. Moi, sur un match comme ça.
Mais
sur une affiche de Ligue des Champions où tu es à l'extérieur, où il faut marquer, où. Moi, je reste persuadé que le PSG serait meilleur avec plutôt que sans Neymar. Voilà.
Je pense pas.
Voilà. Parce qu'après, il y a plein de choses qui prouvent le contraire.
De toute façon, sur un match, on n'a pas de vérité.
Je pense que l'absence de Mbappé a été préjudiciable au PSG et à Neymar. Je pense que Galtier l'a utilisé dans un rôle aussi. Quand il a personne devant lui, voilà, c'est un tigre sans les griffes, quoi. Mmh. Ça perd un peu de son intérêt.
Ouais, mais à ce prix-là, et oui. T'espères que le tigre, même s'il a personne devant lui, qu'il en fasse un peu plus, mmh. Voilà. Et je pense que, voilà, mais on pourrait en parler des heures, Neymar. Je pense qu'il a basculé dans autre chose. Et la période pré-Coupe du Monde, il est formidable. Mais je pense qu'il est formidable parce que c'est la période pré-Coupe du Monde. Si tu tires le fil autour, c'est quand même beaucoup bien moins flamboyant. Donc voilà, de toute façon, le PSG sera... Moi, je pense encore une fois qu'il ne sera pas forcément moins fort à Munich sans Neymar.
Alors, rappelez-vous simplement, hein, y a une image qui me vient en tête. Mmh. À Madrid, l'année dernière, mmh. avant de prendre l'eau, mmh. qui c'est qui envoie Mbappé au but sur une passe absolument exceptionnelle. Mmh. Non, mais je veux dire, des moments qui comptent quand
mais
même.
Mais oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure de Lille. Oui, mais c'est ce que je veux dire, est-ce que quand tu pèses le ce qui t'apporte et la façon dont il te dessert, est-ce que c'est pas déséquilibré? Moi, j'ai tendance à penser que oui, voilà, tout simplement.
Ouais, on peut pas tout lui foutre sur le dos non plus.
Non.
Non, mais on peut pas tout lui
foutre. Non, mais tu peux pas le mettre sur Mbappé?
Non.
Non. Messi, à la rigueur, Messi, ça pourrait se discuter. Mais je pense que, encore une fois, Neymar, on est sur la 6e saison.
Non, mais que son bilan au Paris Saint-Germain soit mauvais. Ça, on est raccord là-dessus. Voilà, que son corps les trahit beaucoup trop souvent, on est d'accord là-dessus. Ouais, moi, je te parle de Bayern PSG mercredi. Ouais. Je préfère avoir Neymar plutôt que de ne pas l'avoir. Voilà. On passe au deuxième sujet.
Oui, on passe au deuxième sujet. Le cas Vitinha, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, le jeune attaquant qui est arrivé cet hiver au Mercato. 32 millions d'euros, recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Et une question, alors évidemment, on n'est pas là, on n'est pas dans la caricature. On n'est pas dans la culture de l'instant, mais n'empêche qu'au bout d'un mois, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est à quoi il sert et surtout ce que l'OM a prévu pour lui, en quelque sorte. C'est presque la question qui se pose de se dire, en gros, il est arrivé fin janvier, mais pourquoi faire ?
Alors déjà, je voudrais dissiper un malentendu. On ne va pas condamner Vitinha. Il a 22 ans, il sort de Braga. Il n'a connu que Braga dans sa vie. Donc là, il change de club, il change de ville. Il change de pays pour la première fois de sa vie. Ça fait un mois qu'il est là, il n'avait jamais changé, il était dans un cocon. Et là, il arrive quelque part quand même où, en plus, la patience n'est pas la valeur maîtresse. Donc, voilà. Il débarque dans un club où on lui colle deux étiquettes paradoxales. C'est-à-dire à la fois le plus gros transfert de l'histoire, mais aussi celle de remplaçant jusqu'ici. Ouais. Il a démarré qu'un match, le premier, 45 minutes. Voilà. Pour moi, c'est un peu normal qu'il foire totalement ses débuts. Parce qu'on peut parler jusqu'ici. Voilà, il a joué 80 minutes à peu près, il n'a pas apporté grand chose. On se souvient de son face-à-face dimanche face à Donnarumma ou encore même face à Annecy où il a une occasion en or à la dernière minute où les deux fois il foire sa frappe. Voilà, il est dans un environnement quand même, c'est normal que ce soit instable dans sa tête et dans ses émotions. Moi, je trouve ça assez intelligent de la part de Longoria de le prendre au mois de janvier. Moi, j'avais dit quand il est arrivé, il faut lui laisser 6 mois. C'est pas lui qui vous fera gagner la Coupe de France, qui vous fera aller sur le podium. Et en fait, tout le malentendu de Vitinha, ça vient du prix de son transfert, finalement. Parce que c'est un mec de 22 ans, c'est un mec qui doit se développer, c'est un mec qui découvre un nouveau club. On va pas le condamner. Donc, on va tout de suite clore ce débat. Et moi, je trouve que c'est plutôt intelligent de l'avoir pris au mois de janvier pour que, voilà, il digère tout ça, que l'été, il fasse une belle préparation. Et par contre, au mois d'août, on sera intransigeant et impitoyable avec lui. Mais on a connu combien de joueurs qui arrivaient l'hiver comme ça, des petits jeunes du Brésil ou je ne sais d'où. Voilà, lui, il arrive du Portugal. Laissons-lui un peu de temps et on ne va pas lui faire porter le chapeau de la semaine noire de l'Olympique de Marseille. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire porter le chapeau à d'autres qui sont... Pour le coup, qui ont baissé complètement d'intensité ou qui ont vu leur niveau un peu s'effondrer. Je pense à Guendouzi, je pense à Nuno Tavares, je pense à ces joueurs-là.
Ouais, le paradoxe aussi, tu l'as dit, il y a le prix, etc. Donc, il arrive très cher à un moment au milieu de saison. C'est toujours un peu particulier. Et il est titulaire dès son premier match contre Nice. Donc, alors qu'on a l'impression, et quand on écoute les acteurs de l'Olympique de Marseille, Javier Ribalta, le directeur du football, qui en a parlé la dernière fois dans Téléfoot, qui dit... On est patient avec lui, il doit être patient. On a une équipe qui tourne bien, c'est pas forcément évident. Donc en gros, ce qu'on comprend en creux, c'est que c'est un joueur pour le futur et qu'ils l'ont acheté aussi à ce moment-là parce qu'ils ont découvert ce profil que, on va le dire, hein, 90% des gens qui suivent le football ne connaissaient pas ou très peu. Donc en gros, ça leur a sauté à la tronche, ils le suivaient. Les clubs anglais étaient dessus, ils se sont dit, de toute façon, si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Mmh. Donc ils l'ont pris. Et ce qui correspondait à un besoin vital pour l'OM. Alors,
mais non.
Vous allez me dire, le grand attaquant, etc., il n'a toujours pas, etc. Sauf que Alexis Sanchez, fait très bien le boulot. Et donc, ce n'est pas un besoin complètement vital, mais c'est une solution de rechange qui est plutôt intéressante. Et c'est comme ça qu'il faudra le voir jusqu'à la fin, pour moi, de la saison, parce qu'il y a Alexis Sanchez, aujourd'hui, est difficile à déboulonner. Mais si vous regardez un peu plus loin, Unai, il ne joue pas énormément non plus. Mmh. Et pourtant, ça se passe correctement, parce que aussi, c'est une solution d'avenir. Le seul, finalement, qui ressemblait à un besoin évident et identifié, c'est Malinovski. Mmh. Parce que qui jouait à ce poste-là depuis le début de saison, c'était Guendouzi. Donc en gros, c'était un joueur où ça se passait bien, mais c'était un peu à contre-emploi. Donc aujourd'hui, ils ont un joueur plus offensif qui peut jouer plus haut. Et en plus, il y a Under qui est revenu, donc il y a plusieurs solutions. En fait, voilà, le malentendu, il est là. C'est de se dire que ce joueur-là, Vitinha, c'est presque la première recrue de la saison prochaine. Alors, ce qui va être difficile jusque-là, c'est qu'encore une fois, tu l'as dit, la patience. De toute façon, ce n'est pas qu'à Marseille. C'est que globalement, aujourd'hui, on est sur la culture de l'instant.
Oui, mais...
Les réseaux sociaux, etc. Ils ne jouent pas, c'est un échec. Alors que, comme tu le dis, il y a d'autres joueurs, de très grands joueurs. Il y a toujours l'exemple ultime qui est Rai,
oui,
qui était déjà un grand joueur en arrivant au PSG il y a très longtemps, qui a mis un an à s'acclimater alors qu'il avait l'expérience, alors que c'était autre chose que Vitinha en arrivant. Et bien, tout simplement, il faut accepter qu'il faut du temps, qu'il faut pas le bichonner, mais le faire grandir.
Même Messi, quand il arrive au Paris Saint-Germain.
Voilà, exactement.
Voilà, c'est un an à s'acclimater, alors que Messi, il n'avait pas 22 ans, mais il avait passé toute sa vie à Barcelone.
Alors, la seule question qu'on peut se poser, à la rigueur, mais c'est toujours un risque, parce que vu le prix du transfert, ce serait malvenu qu'il soit reparti et qu'il se blesse, c'est de se dire peut-être qu'il fallait le reprêter pendant 6 mois. Voilà.
Parce que là, tu prends le risque qu'à un moment donné, le Vélodrome le prenne. Si la fin de saison se passe mal, s'il ne marque toujours pas de but d'ici le mois de juin, si il se contente de bout de match. De toute façon, tu le sens qu'il est fébrile quand même.
Mmh. Ah oui,
tu le sens dans ses attitudes, dans son visage, dans ce qui rejaillit de ces quelques minutes passées sur le terrain. Ce qui est normal. Mmh. Et le Vélodrome, voilà, n'est pas patient, n'a pas le pardon facile. Donc, voilà, le risque, il est là. Mais... Et puis, il y a aussi le cas Alexis Sanchez. On ne sait pas s'il sera là l'année prochaine. Mmh. Voilà. Il a dit, en plus, aujourd'hui, en conférence de presse, je suis là pour gagner, etc. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas d'être deuxième et tout. Donc, il y a ce risque de voir Alexis Sanchez partir à un moment ou un autre. Et Vitinha, il est là pour s'inscrire dans ces pas-là et pour prendre la succession. Donc, moi, je trouve ça intelligent l'avoir pris sur 6 mois. Mmh. Maintenant, à tout d'or de bien l'utiliser.
Ouais, c'est ça.
De ne pas le griller, d'essayer de conserver la confiance que le joueur a en lui-même. Il ne faut surtout pas qu'elle s'effondre parce qu'on sait que ça peut aller très vite. Et moi, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas.
Et puis, ceux que ça inquiète, vice-versa, je vous rappelle que Luis Suarez.
Qui n'y connaissent rien au football.
Luis Suarez avait mis 2 buts pour son premier match avec l'OM.
Oui.
Il est reparti 3 mois après. Donc, à un moment, il faut aussi avoir un peu de recul. Moi, je pense que s'il y a une seule erreur, à mes yeux, je pense que c'est de le faire jouer d'entrée contre Nice. Mmh. Parce qu'en le faisant jouer d'entrée contre Nice, tu laisses entendre que ce joueur-là est indispensable pour ton
club.
Et qu'il
est prêt.
Et qu'il est prêt, que tu avais absolument besoin de lui et que tu lances déjà dans le grand bain. Il aurait mieux fallu attendre parce que voilà, peu importe.
Surtout qu'il le sort après 45 minutes,
en plus, voilà, c'est
laborieuse.
Ça. C'est exactement ça. C'est qu'il y a cette difficulté-là de dire bon, ça le fait pas. Et c'est vraiment, pour moi, c'est à mettre au passif de Tudor ça. Mais derrière, voilà, c'est de se dire bon, ce match-là a pas existé. On repart, on fait jouer des morceaux. Et puis ça va marquer. À un moment, en fin de match, il va mettre le premier but. Et puis c'est un buteur. Donc les buteurs, ça a besoin de confiance. Il n'y a pas de raison. Moi, j'ai regardé un peu. Pour info, je ne l'avais jamais vu jouer avant. C'est un joueur qui semble avoir une palette assez développée de buteurs. Voilà.
Oui. C'est pas le joueur qu'on voit depuis le début, depuis qu'il
voilà,
est arrivé.
Voilà, exactement.
Quoi. Qui pue la frousse quand même.
Voilà.
Un petit mot Swahili peut-être, Maxime.
Lequel?
Bah, je sais pas. Comment tu dirais je sais pas. Assiette.
Ah, je l'ai pas.
Ah ouais. Maxime, ouais. Mais qui sait dire gerbe. À quoi ça me sert, moi? Imaginons. Demain, je vais là-bas. À quoi ça me sert de savoir dire girafe? Apprends-nous
au
moins
si, je t'assure qu'il y a beaucoup de girafes.
Ouais, mais d'accord, mais apprends-nous quand même des mots que tu utilises dans la vie de tous les jours. Et comment ça va?
Ah, ça, je crois que je le sais. Si, j'en ai un.
Ah, mais me sors pas. Non, mais me sors
non,
pas.
Bienvenue, c'est.
Ah
C'est pas Cario. Non, c'est un truc comme ça. Ah, bah j'avais bienvenue, je l'ai plus.
Est-ce que tu nous promets de présenter la semaine prochaine le FC Stream Team en Swahili?
Ah, ça va être dur ça. Attends, faut que je retrouve. Attends, je suis désolé, je vais aller prendre une seconde pour aller sur mon smartphone pour retrouver comment ça
Bienvenue
se dit.
Bienvenue en Swahili. Non, mais vas-y, hein, l'émission est pas en direct.
Caribou, voilà.
Ah oui,
animal.
Caribou.
Caribou,
c'est vrai,
voilà.
C'est vrai.
Ah, ça m'énervait.
C'est vrai. Allez, on va passer au troisième sujet de cette émission. On va parler de Karim Benzema et des trophées The Best. Karim Benzema qui, s'il ne l'a pas dit frontalement, avait l'air assez échaudé par, par les résultats du trophée The Best. On rappelle, les trophées The Best sont décernés par l'UEFA qui vote les capitaines des sélections, les entraîneurs des sélections, un panel de journalistes dans chaque pays, un journaliste par pays, je crois, plus des fans. Voilà,
25% chacun.
25% chacun. Et ils ont décidé de donner le trophée The Best, donc du meilleur joueur, à Lionel Messi sur la période allant de août 2021 à
du 8 août 2021 au 18 décembre 2022. Donc, comme ça, bientôt, ça va être au bout de deux mois. Bon, bref, ça rime à rien. Et surtout que les derniers trophées avaient été du 8 octobre, d'octobre 2020 à août 2021. Enfin, on n'y comprend pas bien. Et d'ailleurs, The Best, première chose, si on veut consoler Benzema, ça n'a pas. En fait, les The Best, c'est redevenu ce qui était le joueur FIFA de l'année il y a 20 ans. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout.
Tout le monde s'en fout. Sauf
Benzema, qui donc.
Il a été vexé.
Ouais, alors. On ne peut jamais en être sûr avec lui parce qu'il a une communication très cryptique, même s'il a mis son palmarès derrière de l'année. Ça veut dire quelque chose. Alors, c'est son moteur de se dire, alors, comme il a dit, je me suis fait tout seul, quelque chose comme ça. Alors déjà, à la base, on ne se fait jamais tout seul parce que c'est un sport collectif. Donc voilà, il porte beaucoup, il a porté énormément le Real, mais ce n'est pas exactement ça. Maintenant, Benzema, je pense que, ça lui passe au-dessus. Il a le ballon d'or. C'est ça qui comptait. Voilà.
Ouais, bien sûr.
Alors, la question quand même, Martin.
Puis il a Ligue des Champions, il a... Voilà.
Et puis il a... Bon, bref. Est-ce que quand même, tu trouves qu'il y a une forme d'injustice à ce que Benzema, c'est même pas tant qu'il n'ait pas gagné, parce que ça, on peut décrypter les raisons, mais qu'il soit par exemple troisième ou qu'il paraisse déjà très loin dans le rétroviseur des deux autres, qui sont évidemment Lionel Messi et Kylian Mbappé.
Si j'avais fait partie du panel du journaliste, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs j'envoie un petit message à l'UEFA, je trouve ça
culotté. FIFA.
À FIFA, pardon, oui, j'ai dit l'UEFA tout à l'heure, à FIFA, je trouve ça culotté. J'aurais voté pour Lionel Messi. Moi, mon podium aurait été Messi, Benzema, Mbappé. Donc voilà, je ne trouve pas le résultat scandaleux. Effectivement, qu'il soit loin. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on a envie de récompenser ? Est-ce qu'on a envie de récompenser le meilleur joueur de la Ligue des Champions 2022 ou le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022 ? Finalement. Voilà, on en est là. Est-ce qu'on a envie de récompenser un vainqueur de Ligue des Champions ou un vainqueur de la Coupe du Monde ? Ça dépend où on met le curseur. Moi, je ne vais pas contredire tout ce que je dis depuis des années ici même quand on parle du Ballon d'Or. Pour moi, le numéro 1 en haut, tout en haut, c'est la Coupe du Monde. Et la façon dont Lionel Messi, en plus, a gagné cette Coupe du Monde, 7 buts, combien de passes décisives, je ne sais plus, 3 passes décisives. Meilleur joueur du tournoi pour moi, pas pour Maxime, mais ça on en reparlera. Pour moi, voilà, ça suffit. Alors oui, il y a eu au PSG, c'était pas ça, c'était pas terrible du tout sa saison 2021-2022. Mais pour moi, ça a assez peu d'importance. Surtout dans le problème de Benzema, c'est qu'il ne l'a pas joué, cette Coupe du Monde. S'il avait fait la Coupe du Monde de Kylian Mbappé, là, j'aurais dit d'autres choses. Là, j'aurais...
Je pense qu'il n'a pas gagné.
Là, j'aurais dit... Ouais, peut-être, mais en tout cas, j'aurais dit autre chose. C'est-à-dire que si le mec te gagne la Ligue des Champions et qu'il te met 8 buts à la Coupe du Monde jusqu'en finale, voilà, il peut quand même mériter. Mais là, je suis désolé de m'incliner. Voilà, il doit s'incliner derrière Messi pour moi parce que la Coupe du Monde est tout en haut.
Pareil, moi, je suis le premier, alors pour ceux qui nous suivent, je suis le premier à regretter le poids perdu par les équipes nationales et les compétitions internationales, ne serait-ce que dans cette décennie passée avec Ronaldo, Messi, Ronaldo, qui gagnait à chaque fois grâce au club et dont on se foutait à peu près des résultats en équipe nationale.
Sauf l'année dernière avec la Copa América pour le Ballon d'Or.
Ouais, mais là, c'est... Bon, bref. c'est juste qu'il votait parce que c'est Messi, voilà. En fait, moi, Benzema, il est victime de 4 choses cette année. Déjà, il est victime de rater la Coupe du Monde. Ah, ça c'est une certitude.
Oui, bien sûr.
Mais je pense quand même que même avec... C'est peut-être un provocateur ce que je vais dire, mais je pense que même avec une Coupe du Monde à 5-6 buts qui n'est pas gagné et que Messi gagne la Coupe du Monde, Messi l'aurait eu, parce que de toute façon, tout le monde vote Messi par principe. Voilà, c'est comme ça. Il y a au moins 2-3 ballons d'or de Messi qui auraient dû échoir dans les bras d'autres, mais ça, c'est autre chose. Et il a gagné, j'allais dire, il a gagné ce respect, c'est comme ça. Voilà.
Toi, t'aurais mis qui en...
Alors, attends, laisse-moi finir. Okay. Il est victime de plusieurs choses, c'est-à-dire déjà l'oubli. C'est-à-dire qu'on est à une culture de l'instant. Ça paraît tellement loin aujourd'hui. Non, mais je pense que dans l'esprit des votants, c'est loin, alors qu'il fait, il est vrai, un printemps, mais qui est... c'est peut-être même le meilleur printemps qu'on ait vu en Ligue des Champions d'un joueur, c'est-à-dire au niveau des buts, au niveau du poids qu'il a sur son équipe et de ce qu'il réalise. C'était exceptionnel. On en a eu un arrière-goût pour Liverpool face à Liverpool la dernière fois. Et ça a été vraiment le... On savait à la fin du printemps qu'il avait gagné le Ballon d'Or parce qu'il avait été tellement énorme. Il est victime de la Coupe du Monde, donc ça je l'ai dit. Évidemment, il n'est pas là, donc c'est compliqué. Il est victime de l'effet Messi. Parce que l'effet Messi, évidemment, bah, ça, c'est, tu multiplies par deux tes chances quand tu t'appelles Messi. Et aussi de la loufoquerie des votants qui, comme d'habitude, ne nous ont pas déçus dans leur vote. Maintenant, est-ce que pour autant, je l'aurais fait gagner ?
Voilà, c'est ça la question.
Mais je, en fait, non, mais... je, c'est la première fois, vraiment, où j'ai du mal à avoir un choix arrêté.
Oui, mais s'il demande à toi, voilà, pour qui t'aurais voté, toi, Maxime ?
Je ne sais pas. Mais vraiment, c'est, j'avoue qu'on est vraiment, je trouve, sur une élection cette année. C'est rare qu'il y ait une telle différence entre les résultats de club, équipe nationale et vice-versa. Voilà. D'habitude, il y a quand même quelque chose. Un Kylian Mbappé, individuellement, sur l'année, il est quand même là 90% du temps. Ce qui n'a pas été le cas de Messi. Mais Messi est allé chercher le Graal qu'il fallait chercher et qui, pour moi, mérite d'être récompensé. Ça, je le dis. Voilà. Même si on a une petite discussion, moi, j'estime qu'il fait une grande Coupe du Monde, mais pas une immense Coupe du Monde. Mm-hmm. Ça, c'est mon avis. Et je ne le mets pas dans le top 5 des plus grandes Coupes du Monde de joueurs joué dans l'histoire.
Voilà. Tu mets en 6, quoi, mais bon.
Bah ouais, mais c'est pas. Bah c'est... Oui, mais bon, là, go partout sur la Coupe du Monde. Non, j'ai vu des joueurs qui ont fait des meilleures Coupes du Monde que lui.
Ah, mais moi aussi. Mais alors, s'il faut faire les Coupes du Monde de Pelé pour avoir un trophée The Best, donc personne ne l'a dans ce cas, le trophée The Best.
Non, mais... c'est pas ça. Mais ce que... Non, mais ça, c'est encore autre chose. Après, il a été décisif. Il fait gagner la Coupe du Monde à l'Argentine, donc évidemment qu'il le mérite. Mais c'est vrai que je me mets à la place de Benzema. Ce qui m'embête pas, c'est pas que Benzema n'ait pas gagné. C'est qu'il soit déjà assez loin dans le rétroviseur parce que finalement, il a raté 2 mois à la rentrée. Enfin, 2-3 mois. Voilà.
Et je trouve que
c'est dur. Oui. Alors que Messi, bah, par exemple, s'il avait raté, il avait raté les 6 premiers. Voilà. Mais évidemment, il a gagné la Coupe du Monde, etc. Mais quand même, la valeur du... Je pense que Benzema, au fond de lui, bon, il y a ce côté aussi vexé de ne pas gagner. Mais de se dire, les gars, vous avez oublié que je n'ai pas fait gagner le Real à moi tout seul. Ce n'est pas vrai. Mais j'ai fait un printemps qui est mais vraiment d'exception.
Moi, je suis plus choqué par le trophée d'Emiliano Martinez, qui pour moi n'est même pas le meilleur gardien. Ce que je veux dire, c'est que ça ne suffit pas de gagner la Coupe du Monde. Emiliano Martinez, c'est même pas le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Oui, devant lui, je mets Bounou et je mets voir Livakovic.
Tu peux y aller. Ah oui, pour la Coupe du Monde. Ouais,
juste pour la Coupe du Monde. Et après, Courtois, c'est un autre.
Tu peux mettre pas loin.
Voilà, mais c'est un autre débat. Messi, sa Coupe du Monde, Maxime.
Oui.
Je sais que tu te pinces un peu les lèvres. Alors que je pense que le soir de la finale, tu aurais été pris par l'ambiance ambiante autour de Lionel Messi. Je suis désolé, sa Coupe du Monde.
Le soir de la finale, la meilleure note, c'était pas lui. Hein.
Oui, mais d'accord. Mais...
Non, mais,
je... non, mais si, pour toi, Mbappé a fait une meilleure Coupe du Monde que Messi ?
Je pense pas qu'il en a fait une plus mauvaise.
Non, mais c'est pas ça la question.
il a fait au moins une Coupe du Monde aussi bonne que lui.
Ouais, mais ce qu'on oublie, c'est qu'Mbappé.
Oui.
Et encore une fois, je vais pas descendre Mbappé et sa Coupe du Monde, mais. Quart, demi, il n'est pas là. Messi, il est là tout le temps.
Non, mais il est important. Mais je n'ai pas un match de A à Z où je me dis, ce truc-là, je vais le regarder dans 10 ans parce que c'est exceptionnel.
Mbappé non plus.
Bah, j'ai revu plusieurs fois au moins les 2 minutes d'exception.
Voilà, 2 minutes. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'Mbappé non plus, il n'a pas été constant.
Oui, mais Mbappé, on
ne
lui demande pas la même chose. On ne lui demande pas cette constance. Parce que si Mbappé est constant sur un match, il marque 10 buts. Parce qu'il est à la finalité des actions.
Bah, Messi, c'est la même chose.
Bah,
Messi,
il marque un but moins, il a quand même un côté plus organisationnel.
Ouais, ouais, mais pas
bon,
non.
Bref.
Termine si tu veux, Maxime.
Sujet, mais... Non, mais je, encore une fois, je pense que. En fait, il n'y a rien qui m'aurait choqué, bizarrement. C'est ça que je veux dire, dans ce sens-là. C'est que pour une fois, alors que j'ai des avis plutôt tranchés généralement sur ces trophées-là, notamment Lewandowski qui se fait arnaquer de 2 ballons d'or, ou Van Dijk qui mérite pour moi celui de 2019. Là, je trouve que Benzema, je peux comprendre une forme d'amertume qui est liée à l'oubli et qu'il dit voilà. Et alors, autre chose, parce que tu dis Martinez gagnant, Scaloni gagnant, bah oui, c'est the best FIFA, donc autant faire briller la.
Oui, bien sûr.
Si on peut faire briller, après, c'est pas eux qui votent, mais bon, c'est orienté quand même pour faire gagner les stars. Et si en plus les stars gagnent au terme de la plus grosse compétition du monde qui est sans pied FIFA.
Martinez, personne n'entendra parler dans 2 mois, hein. Ce sera terminé. Donc au niveau de la star, c'est pas non plus.
Martinez, il a pour lui 2 arrêts majeurs dans le tournoi.
Et une célébration.
un pénalty arrêté, l'autre qui passe à côté. Mmh. Et évidemment, une célébration
provocatrice.
D'ailleurs, on ne lui a pas tenu compte.
C'est vrai.
Parce qu'il parlait, je crois que la FIFA n'avait pas parlé à un moment qu'ils allaient enquêter là-dessus.
Si, ouais.
Si tu veux enquêter, le mec il prend son gant et se met sur la face. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pas le suspendre 4 matchs hein ?
Non.
Déjà devant un tribunal, je pense qu'il peut dire non, mais je le tenais comme ça pour le regarder.
D'ailleurs, Maxime, comment on dit tribunal en swahili ?
Je ne sais pas.
Je vais pas te lâcher avec ça.
Je ne sais pas.
Je vais pas te lâcher. Bon, bah merci Maxime pour. Bah, on a appris plein de mots Swahili, donc on est très content.
Ouais.
Et si jamais il y a une.
Petite interro écrite la semaine prochaine.
Voilà, exactement. Exactement. Et j'aimerais que tu nous fasses découvrir un peu l'univers de la langue Swahili.
À santé, Sana, c'est merci beaucoup. Voilà, je vois, ça revient au fur et à mesure. À santé.
Ah, bon. Ah, il a bien retenu la leçon. Tu es prêt pour y retourner, Maxime? Et pourquoi pas sur Eurosport Kenya un jour?
Eurosport Kenya, ouais.
En Swahili. Merci à Sébastien Petit derrière la caméra. Merci à Quentin Guichard pour les visuels.
À santé, Sana.
À santé, Sana, exactement. Et merci, Maxime.
Merci, Martin.
Pour ce grand moment du FC Stream Team qui restera assurément dans la légende de l'émission. Merci beaucoup.
Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.